Eh bien, bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. C'est BenoFX pour la chronique jeu du mois. Je suis accompagné, comme d'habitude, par Cyrus. Bonjour Cyrus.
Bonjour BenoFX.
Oui, et donc pour cette chronique, ce mois-ci, on tient aussi à remercier nos tipeurs, parce que je sais pas si ça s'entend, mais j'espère en tout cas. On a du tout nouveau matos avec Cyrus, on a tous les deux un très beau micro USB, donc j'espère que le son sera bien meilleur que sur les deux premières chroniques. Et ça, c'est grâce aux tipeurs, c'est grâce à ceux qui financent un petit peu Proxy Jeux à travers leurs dons. Donc merci beaucoup
merci.
À vous.
Merci les tipeurs, on vous aime.
Ouais, des bisous.
Alors moi, j'ai traîné mon micro déjà sur la chronique plateau numérique, mais je pense que j'avais pas bien réglé Audacity, du coup j'espère que là ce sera mieux. Voilà, j'ai fait des efforts pour essayer de régler ça un petit peu.
Bah ouais, moi aussi c'est un baptême du coup. N'hésitez pas à nous dire un petit commentaire hein, si c'est mieux, si c'est moins bien, afin qu'on peaufine les réglages si jamais.
On ajuste.
Merci encore.
Voilà. Merci.
Et cette fois-ci, les rôles sont un peu inversés. D'habitude, je vous parle d'un jeu un petit peu costaud et Cyrus d'un jeu un petit peu plus light. Et cette semaine, on va faire le contraire. Moi, je vais vous parler du maintenant célèbre King Domino. Et Cyrus, tu vas nous parler de...
Et moi, je vais vous parler de Flamme Rouge. Alors, c'est pas un jeu très très costaud, mais pour le coup, entre King Domino et Flamme Rouge, effectivement, Flamme Rouge se positionne peut-être sur un créneau un petit peu plus costaud.
Ouais, bon voilà. On est deux jeux pas trop costauds, mais bon... C'est les fêtes de Noël bientôt, c'est plutôt du familial, voilà, on commence par King Domino.
Bah allez, commençons par King Domino, à toi l'honneur.
Alors, King Domino, si vous n'en avez pas entendu encore parler, c'est un jeu de Bruno Catala, illustré par Cyril Bouquet. Désolé Cyrus, j'ai pas relevé le défi de trouver un nom d'illustrateur encore plus compliqué que les deux précédents. Donc un jeu.
Ouais, là c'est vrai que ouais. Non mais c'est bon, je prends.
Tu prends. Bon, voilà. Donc de toute façon, clairement les illustrations sont jolies, mais c'est pas un jeu où les illustrations ont une importance et un poids c'est très très fort. Donc c'est un jeu de Bruno Catala, comme je l'ai déjà dit, édité par Blue Orange. Et donc, comme son nom l'indique, son petit jeu de mots, c'est un jeu de domino dans un royaume, Kingdom en anglais, d'où le nom King Domino. Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, assez accessible, et pour des parties assez courtes, puisque ça va durer, si on fait juste une partie, une quinzaine de minutes.
Ouais, effectivement, enfin, format très light, effectivement.
Ouais, pour format très light, très rapide.
Comparé à tes... Pierre de la mer du Nord ou Scythe.
Oui, là on a descendu de quelques crans, mais c'est pas un jeu inintéressant.
C'est ce que tu joues entre les deux parties en fait, c'est ça?
C'est ça, mais c'est très agréable à jouer entre deux grosses parties. C'est pas un jeu inintéressant du tout. En fait, alors pourquoi King Domino, pourquoi un jeu de domino? Moi je trouve que c'est plutôt un jeu de tuiles, mais il y a effectivement une petite mécanique de domino, puisque ce sont des tuiles avec deux cases en fait à chaque fois. Et le but du jeu, c'est quoi? Ça va être de créer un royaume avec ces tuiles. Un royaume de 5 cases par 5 cases. Donc ça, c'est une des caractéristiques du jeu un peu différente d'un jeu de domino classique. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir sortir de ces 5 par 5, de ces 5 cases par 5 cases. Donc en fait, au départ, tout le monde a un petit château devant soi, avec une tuile de départ en fait. Et donc on va récupérer à chaque tour de jeu une tuile qu'on va placer dans son royaume. Donc par rapport à la tuile de départ, on peut y mettre n'importe quelle tuile autour. Et en fait, sur les tuiles, on va avoir des paysages qui sont différents. On va avoir des paysages de forêt, des paysages de plaine, des paysages de champs de blé, des paysages de montagne, des paysages de marais, désert. Enfin voilà, on a différents paysages. Donc il peut y avoir deux fois le même paysage sur les deux côtés du domino, ou deux paysages différents. Donc autour de sa tuile de départ, on va pouvoir mettre n'importe quel paysage, n'importe quel type de tuile. D'accord ? Donc c'est libre autour de cette petite tuile de départ. Mmh. Et ensuite, la seule règle à respecter, c'est quand on ne place pas un domino, donc une double tuile, autour de sa tuile de départ, il va falloir qu'il y ait au moins un fond, un paysage qui corresponde. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir une correspondance parfaite entre les dominos posés et le domino qu'on va ajouter. Il faut juste qu'il y ait au moins un des deux côtés du domino qui correspondent.
Oui, et puis t'es pas obligé de mettre les dominos à la suite les uns des autres, puisqu'il faut faire un carré.
Oui, c'est ça, c'est un jeu de carré, donc on peut les mettre dans des positions... il faut qu'il y ait toujours au moins une case qui se touche. Il faut toujours qu'il y ait au moins une des deux cases aussi qui soit correspondante, enfin qui soit identique avec une autre case qui était
déjà
placée. Mmh. Et voilà, et on doit aussi rester dans le carré 5 par 5. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a... qu'on a cinq, enfin un équivalent de 5 cases de domino en largeur par exemple, on ne pourra pas mettre un domino qui va dépasser de ces 5 cases. Donc c'est un petit peu
là on sent bien la contrainte tout de suite arriver, quoi.
Voilà. Ça c'est le côté contraignant, on va dire, du placement de ces tuiles. Et donc le but du jeu, bah, c'est de faire le plus de points possible. Et comment on fait des points? En fait, sur certains dominos, il va y avoir des bâtiments avec des couronnes, d'accord? Et il va falloir
les
aussi
couronnes du roi,
les couronnes du roi,
du king,
de ce royaume, du kingdom, c'est ça. Et donc en fait, il va falloir faire, en fait, c'est assez malin le comptage, mais on va multiplier ce nombre de couronnes qui est sur un type de paysage avec le nombre de cases de ce même paysage qui est adjacent. Imaginons, on a 5 cases de plaine qui sont adjacentes, continues, d'accord ? Dès qu'il y a d'autres paysages entre ces tuiles, ça ne fonctionne plus. Et donc ces paysages adjacents, on va les multiplier par le nombre de couronnes qui sont compris dans ce paysage. C'est-à-dire que si on n'a pas de bâtiment avec des couronnes et qu'on a, je sais pas moi, 10 tuiles de forêt adjacentes, bah ça va scorer 0,
ça fait 0, quoi,
tant qu'on n'a pas de couronne. En fait, on va multiplier le nombre de cases par le nombre de couronnes. Si sur ces 10 tuiles de forêt, on a une couronne en tout, ça nous fera 10 points. 1 fois 10. Si on a deux couronnes, ça nous fera 20 points. 2 fois 10. Et ainsi de suite. Donc après, il y a une répartition aussi des paysages. Qui est, voilà, il y a des paysages qui se retrouvent en grand nombre, mais avec très peu de bâtiments et de couronnes qu'on peut retrouver dans ces paysages, et au contraire des paysages qui sont en très petit nombre mais avec des couronnes, avec des nombres de couronnes très importants. Par exemple, il y a un paysage où on peut trouver 3 couronnes sur une seule case, et d'autres paysages on va trouver, enfin sur les mêmes paysages 2 couronnes ou une couronne, donc on peut des fois avoir que 3 tuiles ou 3 cases, on va dire, adjacentes du même type de paysage, mais avec par exemple 6 couronnes. Donc 6 fois 3, 18, ça peut faire beaucoup de points en très peu de cases. Et donc voilà, il va falloir optimiser le placement de ces tuiles pour avoir le royaume qui va nous faire marquer le plus de points, en respectant cette contrainte.
Et surtout, il va falloir récupérer les couronnes, j'imagine.
Oui, c'est ça. Donc en respectant les contraintes de placement et les contraintes du 5x5, et surtout, et c'est là où le jeu est vraiment malin, en fait, le choix des dominos, les dominos ont tous un numéro, et en fait plus le numéro est élevé, donc ça c'est au dos, et en fait plus le numéro est élevé, plus la tuile est censée être intéressante, c'est-à-dire plus il va y avoir de couronnes ou d'éléments rares sur cette tuile. Et donc là où ça va être malin, c'est que on va sortir un ordre, en fait l'ordre de départ va être choisi aléatoirement, donc qui va choisir sa première tuile sa deuxième, sa troisième, et donc ces fameux numéros qui sont le plus élevé et la tuile la plus intéressante, le plus faible, la tuile la moins intéressante, en fait quand on va choisir la tuile, on va pas la prendre tout de suite, on va laisser son petit bonhomme dessus et on va remettre une série de tuiles, et c'est quand on va rechoisir une nouvelle tuile qu'on va placer la tuile. Et en fait, la tuile la plus faible, qui est la moins intéressante, correspondra en fait à la position de premier joueur au tour suivant. Donc c'est-à-dire, plus on vient prendre une tuile intéressante, ou qui est censée être intéressante, plus on va jouer dernier au tour d'après. Ce qui fait qu'il faut toujours réfléchir à l'intérêt de la tuile, et surtout à ce qu'on va potentiellement louper au prochain tour. C'est-à-dire que si on prend une tuile très intéressante, il y a de fortes chances qu'on n'en prendra pas une aussi intéressante au tour d'après. Donc voilà, c'est assez simple. Alors faut savoir, j'ai des petites anecdotes sur ce jeu, enfin c'est pas inventé, mais c'est Bruno Catala qui le raconte sur son blog. En fait, ce jeu, au départ, c'est un jeu de commande. Enfin, Bruno Catala, tous les ans, depuis 2012, devait concevoir un jeu pour une station de ski qui est le grand massif domaine skiable. Donc il en avait fait un peu tous les ans, et en 2015 il a fait un jeu de domino. En fait, il avait déjà fait un jeu de cartes, un jeu de tuiles et un jeu de dés, et donc il avait eu l'idée de faire un jeu de domino et qui s'appelait Cadominos. Donc c'était un jeu pour la station du Grand Massif, qui était distribué aux familles qui prenaient un forfait familial, en fait. Et donc apparemment c'est un jeu qui lui plaisait beaucoup à Bruno. Il l'a tellement rejoué, il a tellement aimé qu'il a dit c'est dommage qu'il n'y ait que les gens qui ont pris le forfait famille au Grand Massif qui profitent de ce jeu.
Parce que, on imagine bien que la distribution elle doit pas être énorme. Quand
non,
même.
Voilà, c'est quelques, je sais pas si c'est des centaines ou quelques milliers de boîtes qui sont distribuées sur le massif.
Ouais, je dirais peut-être quelques centaines, mais
peut-être
plus.
Quelques centaines. Et apparemment c'est une c'est quelque chose qui se faisait en partenariat déjà avec Blue Orange. Donc naturellement, c'est naturellement que Blue Orange, enfin que sûrement Bruno Catala et Blue Orange ont décidé de sortir ce jeu en plus grand public. Voilà, que dire de plus sur King Domino ? Bon, j'ai expliqué les règles. C'est un jeu qui est très bien à deux joueurs aussi. Il faut savoir qu'à deux joueurs, en fait, on va prendre deux tuiles par tour.
Et ouais, t'as une variante à deux joueurs qui te fait jouer en 7 par 7, c'est ça ?
Voilà, ouais, c'est à deux joueurs, donc tu peux jouer en 5 par 5 en supprimant certaines tuiles pour t'habituer un petit peu. Mais déjà, tu vas prendre deux tuiles par tour, donc il y a un aspect stratégique un peu plus fort. Et en plus, une fois que tu es joueur aguerri, tu vas pouvoir en fait utiliser toutes les tuiles comme à 4 joueurs. Et au lieu de faire un royaume de 5 par 5, tu vas faire un royaume de 7 par 7. Donc un beaucoup plus grand royaume.
Ouais,
tu vas placer
là,
beaucoup plus de dominos.
Les scores vont être beaucoup plus importants.
Les scores vont être beaucoup plus élevés et le plaisir aussi du coup, parce que je pense que voilà, t'as vraiment de quoi faire. C'est vrai que à 5 par 5, les premières parties souvent on se fait bloquer parce que si on n'agence pas bien nos dominos, on peut se retrouver à la fin avec des dominos qu'on ne peut plus placer.
Parce... Ouais, c'est ça, t'es vite au bout quoi.
Ouais, la géométrie fait que tu rentres plus dans le 5 par 5 ou alors juste les dominos que tu avais choisis. Les terrains sur lesquels tu étais parti, tu vas te retrouver avec une tuile qui correspond à aucun des terrains que tu as. Et donc, dans ce cas, tu ne vas pas pouvoir la placer, tu ne respecteras pas la règle d'avoir au moins une case qui est adjacente. Et dans ce cas, tu es obligé de défausser le domino. Et donc, tu vas potentiellement perdre des points puisque tu placeras moins de tuiles. Donc après aussi, sur
et
ça...
Il y a un autre aspect aussi, c'est que quand tu peux placer une tuile, tu es obligé de la placer.
Ouais,
et quand
tu es
sur la fin, ça peut ne pas t'arranger. Quoi,
oui,
parce
tu
que
peux placer
quand
des
tuiles qui vont encore tomber, etc.
C'est ça.
Étant donné que tu dois être adjacent que sur une case, il suffit d'être adjacent que d'une case, ça peut très bien ne pas être le terrain qui t'intéresse avec lequel t'es adjacent. Et du coup, soit tu vas rompre éventuellement une jonction que t'aurais pu créer, soit tu, enfin bon, bref, c'est cet aspect-là aussi, il est pas négligé quoi.
Oui, ça fait partie aussi des règles, des aspects contraignants que j'ai oublié de dire, c'est que effectivement, si tu ne peux pas placer une tuile, tu es obligé de la défausser, mais si tu peux la placer, tu es aussi obligé de la jouer. Même si c'est le seul emplacement où tu peux la mettre et que ça t'arrange absolument pas parce que ça va te couper une série de tuiles que t'avais prévues et qui allait être énorme, tu es obligé de la jouer si tu peux la poser. Voilà, c'est accompagné aussi de petites variantes. Comme je vous l'ai dit, on part avec une tuile de départ sur laquelle il y a un petit château en fait qui est posé. Et donc il y a une variante qui dit que si ton château est bien au milieu, parce qu'en fait, il n'est pas obligé d'être au milieu de ton 5 par 5. Tu peux très bien le mettre sur un côté et faire partir ton 5 par 5 n'importe où. Donc il y a une règle qui rajoute des points, enfin une petite règle, il y a plusieurs petites règles variantes. Une petite qui rajoute des points si ton château est bien au milieu de ton 5 par 5. Il y a aussi une règle qui rajoute des points si tu as bien fini ton 5 par 5 parfaitement, c'est-à-dire que tu as placé toutes les tuiles. Voilà, s'il n'y a aucun trou, s'il est parfait. Je crois que c'est tout en petite règle variante. Enfin voilà, il y a des petites règles comme ça. Il y a aussi, il conseille aussi de faire un mode de jeu un peu campagne, c'est-à-dire de faire trois parties de suite et d'accumuler les points de partie en partie. C'est vrai que sur une partie, des fois, bon bah, il y a quand même une petite part de hasard dans le tirage des tuiles. Effectivement, de faire un mode un peu campagne en faisant trois parties de suite. Comme c'est un jeu qui va très vite, qui dure 10 minutes, un quart d'heure, bon, c'est pas très gênant de faire deux, trois parties de suite. Ça
te permet de glisser un petit peu le hasard. Mais j'ai pas senti le hasard très présent. Enfin, moi, j'ai fait deux parties, donc je peux pas. Mais j'ai pas senti un hasard très présent dans le jeu quand même. Il y a quand même possibilité de maîtriser.
Oui, oui.
Alors évidemment, tu peux avoir 4 tuiles pourries d'un coup, tu peux avoir 4 tuiles super bien d'un coup, mais.
C'est ça, ouais. Non, après. Non, c'est pas le hasard est pas très présent, mais effectivement dès qu'il y a du tirage, c'est un tirage aléatoire, donc il y a ce petit côté là qui peut faire que deux fois de suite t'as pas la bonne opportunité pour toi, alors que ton adversaire qui était parti sur un autre terrain va avoir des tuiles intéressantes à la suite quoi. Enfin, mais bon, voilà. C'est un jeu, je pense, qui va cartonner là, qui d'ailleurs est déjà en rupture, je crois, chez Philibert.
C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est un jeu qui cartonne déjà. Alors ils vont le recevoir à nouveau, il me semble. Nous on enregistre là, on est le 29 novembre.
Ouais.
Si ça se trouve, il sera à nouveau disponible quand vous écouterez la chronique. Oui, puis en plus c'est un jeu qui a un tarif ultra contenu.
Oui,
Il est à 17,50 chez
c'est ça.
Philibert.
C'est un très petit
Donc
prix
vous avez
avec
plutôt
du
trouvé.
matos de bonne qualité. Les tuiles sont bien épaisses. Après, il n'y a pas foison de matos, hein, mais c'est du beau matos, c'est de qualité. C'est un jeu très accessible, très familial, qui est pas embêtant pour autant. Enfin, je veux dire, les enfants, c'est accessible. Les adultes s'amusent. Enfin, nous, on joue entre adultes, entre amis. Ça marche très bien. Donc, c'est vraiment un jeu, je pense, qui a une belle vie devant lui et par son accessibilité et puis son petit prix aussi et son côté malin, quoi.
Ouais, là je trouve que Orange a fait une bonne pioche sur ce jeu.
Ouais, je suis d'accord.
Alors si on parle un peu du matos, effectivement les tuiles sont hyper épaisses. Je sais pas si elles sont aussi denses que ce qu'on a l'habitude de trouver. J'ai un doute là-dessus, j'aurais dû regarder avant.
Ben, attends, j'ai une boîte à côté de moi, je peux ouvrir et
Voilà.
vérifier.
Mais alors après il y a alors un aspect que j'ai déjà souligné sur le retour d'Essen. Moi il y a un aspect que j'aime pas trop, c'est
C'est la
le
brillance,
choix
ouais.
qu'ils ont fait du brillant pour les illustrations. Bon c'est un avis personnel. Je trouve que ça a tendance. En fait ce qu'on voyait jusque-là comme jeu qui était édité comme ça, c'était les jeux édités par les Coréens ou enfin voilà sur des petits tirages comme ça à l'étranger, plutôt en Asie. Et ça a un côté un peu cheap en fait, alors que justement le matos l'est pas. Donc je trouve
Ouais,
ça un peu
enfin,
dommage.
alors là j'ai les tuiles en main, donc les tuiles sont quand même assez denses et bien épaisses en tout cas, bien résistantes. Enfin, je pense que tu peux essayer de la plier, de forcer un peu, ben ça tient bien.
Ouais, j'avais un doute parce que c'est pas la même couleur de carton en fait, je crois, que ce qu'on trouve habituellement. Tu
Ouais,
sais, on n'a pas
ouais,
le.
ouais.
Enfin, c'est pas un marron clair, enfin marron gris clair. Hein. Bref. Mais non, enfin là. Et puis, enfin, de toute façon, c'est pas un jeu qui va. Il n'y a pas énormément de manipulation,
Non, non. Bah, il
même si
faut mélanger
effectivement
un peu les dominos
les
quand même,
deux.
mais
Ouais,
Alors, pour le
c'est vrai,
côté,
il faut
le
manger un
fait
peu les dominos,
que ce
mais.
soit assez épais, les dominos sont à mélanger, enfin, faut plus les répartir sur la table, mélanger sur la table, tu peux pas mélanger ça comme des cartes, quoi,
Ouais,
c'est
et
un
puis
petit peu chiant.
les ramasser. Enfin, il faut peut-être pas essayer de trop les brasser, mais plutôt les étaler et puis les ramasser
Ouais,
un peu
c'est ça,
en
un peu au
différents
hasard, ouais.
tas qu'on va remélanger un peu.
Ouais, moi sur le côté brillant, en fait, moi je trouve pas que ça fait si cheap que ça. Enfin, justement, le fait que ce soit brillant, ça fait un côté un peu verni comme ça. Alors, ça peut être un peu gênant des fois au niveau des reflets, s'il y a beaucoup de lumière, enfin, sous certains angles, ça peut être un peu gênant. Mais moi, je trouve justement que le côté brillant, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Puis ça donne un côté un peu, voilà, comme si la tuile était vernie. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie assez.
Bah, apparemment, voilà, je dois être
Ouais.
un peu un cas à part, mais
Non, non, mais
je me répète, mais
je comprends, oui, ça. Enfin, moi, je vois le côté un peu verni, tu vois le côté un peu plus plastoc, on va dire,
Oui, peut-être, ouais.
que ça peut avoir. Mais voilà. Après, le truc bien aussi, c'est qu'ils ont fait une boîte multilingue. Donc, bon, t'as une grosse règle avec 4 ou 5 langues dedans, mais du coup, c'est la même
Oui,
boîte
bon, après,
partout.
moi je parle essentiellement français, hein,
Ouais,
donc
ouais.
bon.
Non, mais voilà, enfin, ça,
Ben,
c'est.
c'est plutôt un choix de leur part, parce qu'ils ont une distribution qui est mondiale, Blue Orange.
Oui.
Après, je sais pas s'ils avaient intérêt à faire une boîte avec autant de langues, parce qu'on sait quand même que l'impact sur le prix, enfin le livret en fait, ça a quand même un impact assez important sur le prix. Ensuite, les règles sont pas énormes, je crois qu'elles doivent faire 4
Ouais,
pages.
c'est très court. Hein.
Donc du coup, on se doute bien que voilà, ça fait un livret un peu conséquent parce doit y avoir 6 langues, je crois, dedans.
Enfin, là, on dit
Mais
ça
c'est
aussi.
juste.
On dit ça parce qu'on est, c'est un jeu, on va dire, français, mais sur des jeux anglais où il n'y a pas beaucoup de langues sur le matos, généralement on est content aussi, nous en tant que français, quand c'est un jeu anglais par exemple, enfin je
Ah
pense à pas mal
oui.
de Kickstarter, quand il n'y a pas de trucs sur le matos et que c'est pas multilingue et que tu dois soit faire une traduction ou soit payer en plus pour avoir la règle française, moi je trouve le multilingue quand
Oui, mais
même intéressant de
là,
ce
ce que je veux
côté-là.
dire, c'est que Blue Orange, ils ont leur propre distribution à l'international, il me semble. Donc,
Oui.
dire que là, les pays pour lesquels ils ont traduit, enfin, faudrait que je leur demande, mais il me semble qu'ils distribuent dans ces pays-là. Donc,
Oui, c'est
tu
pour
vois, ils
ça
pourraient
aussi
très bien, du coup, avoir fait des
faire des
boîtes
boîtes.
propres.
Ouais,
je,
après
je,
ça,
je demande,
c'est.
Je demande pourquoi, du coup. Bon.
Après, ça évite les gestions de réassort et de réédition que en certaines langues. Enfin, voilà, ils ont un stock unique. Je pense que c'est plus facile au niveau logistique à gérer. Ça doit être un peu plus facile.
Note du monteur, Blue Orange est en fait distribué par BlackRock en France.
Et alors ils ont fait un truc aussi qui est assez marrant, c'est que du coup le rangement des tuiles.
Oui, je l'ai
fait,
pas dit
permet,
ça. C'est vrai.
Voilà, il permet en fait quand on met la boîte à l'intérieur, enfin quand on met le thermoformage à l'intérieur du couvercle, finalement, enfin, comment dire, le fond de boîte avec le thermoformage dedans, dans le couvercle, et de biais, en fait, ça permet d'avoir un système qui va distribuer les tuiles.
Oui, c'est le thermo sert de distributeur de tuiles, enfin, on va piocher les tuiles, comme il faut pas, normalement, qu'on voit les numéros ou ce qu'il y a sur les tuiles avant, donc là, ça permet d'avoir les tuiles qui sont empilées, en fait, et de piocher à chaque fois les quatre tuiles suivantes, et de les placer sur la table.
Alors, ce qui est marrant, c'est que je crois pas qu'ils aient fait un. Alors, sur le dos de la boîte, on voit la présentation un peu comme ça, sans le côté incliné, il me semble. Mais je crois pas qu'ils aient fait un petit schéma à l'intérieur du livret. Ils auraient dû mettre un petit schéma à l'intérieur du livret en disant, bah voilà, on l'a mise en place, c'est comme ça, quoi.
Ouais, enfin, oui, c'est pas incliné sur le dos de la boîte. Après, moi, je l'incline pas forcément, hein, je sais pas.
Ouais,
c'est vrai que ça doit être plus pratique. Mais t'arrives à piocher les tuiles comme ça. Effectivement, t'as le risque qu'elle bascule de l'autre côté, en fait. C'est vrai qu'en inclinant, c'est un peu plus pratique. Mmh. Mais non, à plat, si tu les penches un petit peu contre le truc, ça marche aussi. Mais c'est, je savais pas, là, tu m'apprends quelque chose. C'est une bonne idée d'incliner.
C'est pas mon idée, hein. Ça m'a été présenté comme ça au Bruxelles Game Festival.
D'accord.
Voilà. C'était pour les considérations techniques.
Ouais.
Sinon, je donne mon avis rapidement parce que du coup,
oui,
j'ai joué pour le coup.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment malin aussi. Comme j'ai déjà dit, je suis pas forcément très fan de la production de Bruno Catala. Celui-là, je l'ai acheté. Pour l'instant, j'ai fait que deux parties. J'ai fait une partie Bruxelles Game Festival à 4 joueurs et
avec moi d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Avec la configuration 5x5.
Ouais.
Et puis on a refait une partie avec ma femme et donc cette fois-ci en configuration 7x7. Et je trouvais qu'à deux, et c'est là qu'on retrouve aussi un peu la patte
la
de
patte
Bruno,
de Bruno
Catala, ouais. qui est souvent
qui aime beaucoup les jeux à deux.
On propose des variantes intéressantes à deux. Ouais. À deux, alors déjà c'est sûr, c'est plus facile de contrôler ce que fait son adversaire parce que voilà, il y en a qu'un. Et du coup, ça devient vraiment très tactique avec le jeu des deux, avec le jeu des deux rois, parce qu'on va en placer deux à la fois. Et donc, on peut vraiment réussir à prendre une tuile pour soi, en même temps bloquer une tuile intéressante à l'autre, ce qui donne beaucoup de flexibilité en fait. J'ai trouvé, en tout cas sur la partie que j'ai faite.
Oui, je pense que c'est vraiment un excellent jeu à deux. Ouais. Ça participe aussi, je pense au. Ça va participer aussi à son succès, je pense, parce que c'est un jeu qui est vraiment accessible et qui marche dans plusieurs configurations, aussi bien pour les couples qui jouent beaucoup à deux, mais qui à côté jouent aussi avec des enfants. Enfin, c'est vraiment un jeu un peu caméléon au niveau des catégories qui peut plaire vraiment à une grande catégorie de joueurs, je pense.
Ouais, et puis en plus, le fait que ça joue en 15 minutes, c'est un gros atout aussi. Hein.
Petit,
c'est vraiment
petit prix,
un jeu
rapide,
15 minutes, super intéressant.
Ouais.
Ouais, voilà. Enfin, c'est presque un jeu à ranger, je trouve, dans la catégorie des love letters qui jouerait presque en plus de temps, tu vois.
Love letter, c'est long, hein, finalement. Hein, quand tu dois atteindre tes, je sais plus, deux ou trois lettres, là. Enfin, trois cubes.
Plus que ça, même, peut-être, ouais.
Ouais, ouais, non, ça peut être assez long, love letter, finalement.
Donc, oui, moi, je recommande aussi vivement. Alors, peut-être que j'ai pas essayé, mais je pense que la configuration à 3 est peut-être la moins bonne.
J'ai pas joué à 3 non plus.
Ce qui doit ajouter un côté aléatoire sur les tuiles qui sont enlevées, parce que j'imagine que c'est pas. Je crois pas que ce soit une liste de tuiles.
Non, c'est
une liste
d'enlever, je sais plus, 12 tuiles, je crois. Enfin, c'est. Non, ouais. c'est pas aléatoire.
Donc j'imagine que ça peut peut-être amener de la frustration si tu pars un peu sur un terrain et que tu te retrouves qu'à la fin, t'as quasiment pas les couronnes pour aller, pour aller avec.
Si t'attends un truc qui va jamais sortir, ouais, effectivement.
Mais bon, j'ai pas essayé, je peux pas être catégorique sur le sujet.
Moi non plus, mais c'est le prochain test à faire. S'il y a 3.
Voilà.
Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour.
On va juste donc rappeler la fiche signalétique de King Domino.
Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, c'est ce qui est indiqué, pour des parties d'une quinzaine de minutes. Et en vente chez Philibert pour 17,50€.
Voilà, c'est un jeu de Bruno Catala. Qu'il sera à nouveau disponible quand vous écouterez la chronique.
Voilà, un jeu de Bruno Catala et illustré par Cyril Bouquet.
Et donc, on va passer à Flamme Rouge. Alors, Flamme Rouge, je vous en ai déjà parlé dans Le Retour des Suns, puisque ça a été mon coup de cœur post-salon. Mais j'ai quand même tenu à en reparler là, déjà parce que j'ai un peu plus de parties au compteur.
On en parle beaucoup aussi.
Et puis que le jeu, vous allez vite le comprendre, me plaît, et que je trouve qu'il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors donc Flamme Rouge, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de Asger Harding Granerud.
Ah, c'est à ton tour de galérer sur les noms.
Donc Asger Harding Granerud, donc c'est un Danois. C'est un jeu qui est édité chez Lotapelit, donc c'est un éditeur finlandais que vous pouvez connaître en particulier pour Eclipse. Voilà, il est au moins en tout cas très connu en France pour Eclipse. Et le jeu est illustré par Ossi Yekala et Jere Kazanen. Voilà. Alors, tu vois, je te l'avais dit.
Non, tu vois, chacun son tour, c'est bien.
Voilà, c'est pour moi ce soir. Et donc, qu'est-ce que c'est donc que Flamme Rouge ? Donc Flamme Rouge, c'est un jeu sur le cyclisme, donc c'est vraiment le thème, hein, et vous allez voir qu'on va vraiment pas y couper. Pour le coup, c'est vraiment un jeu dans lequel le thème est important, parce qu'il va vraiment porter le jeu dans son mécanisme. Chaque joueur va être à la tête d'une petite équipe de cyclistes, donc deux coureurs.
D'accord, on joue plusieurs cyclistes du coup. Enfin,
voilà, exactement, ouais, okay. Exactement. En fait, chaque joueur a deux cyclistes. Et ce qui est important, c'est que en fait, ils sont pas pareils. Enfin, il y a un côté asymétrique dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des coureurs qui est un rouleur et le deuxième est un sprinter.
D'accord. Il n'y a pas de grimpeur.
Il n'y a pas de grimpeur, non. Non, c'est vrai que ça choque entre guillemets des gens. Mais j'imagine. Alors, c'est quand même un jeu qui est annoncé pour 10 ans et plus. J'ai un doute. Il est annoncé pour 8 ans, à partir de 8 ans.
Ah oui, donc accessible donc, aussi en termes de...
Voilà, c'est un jeu quand même très accessible. Donc il faut imaginer que l'auteur... Alors c'est le genre de thème qui peut amener à faire beaucoup de... tous les thèmes de sport, en fait, peuvent amener à faire des jeux un peu usine à gaz, avec beaucoup de mécanismes imbriqués les uns dans les autres.
Parce que un peu clivant, des fois, si t'es pas amateur de ce sport.
Et clivant, ça, c'est clair. c'est des jeux qui peuvent amener à vouloir mettre beaucoup de mécanismes imbriqués pour rendre la simulation parfaite.
Ouais.
Or là, l'auteur a fait, je pense, le bon choix, qui est de d'essayer de simplifier tout en gardant l'essence du sport qu'il est en train de simuler. Donc peut-être voilà pourquoi ce choix de rester sur deux types de coureurs.
Ok.
Donc les coureurs différents. Et différents par quoi ? Différents par le paquet de cartes en fait qu'ils ont chacun. Donc pour chaque coureur, on va avoir un paquet de cartes. Et les cartes vont être légèrement différentes sur un joueur, enfin sur un coureur et sur l'autre. Donc le rouleur, en fait, il va avoir des cartes avec des valeurs, donc c'est des valeurs hein, simplement sur les cartes, qui vont de 3 à 7. Et donc il va avoir des 3, des 4, des 5, des 6 et des 7. Chacun en 3 exemplaires. Et le sprinter, lui, il va avoir des cartes 2, 3, 4, 5 et ensuite 9. Il va passer directement à 9. Donc on voit des profils différents. Et le principe en fait, c'est que dans la partie, on va tout simplement, quand on va jouer une carte pour un coureur, il va tout simplement avancer sur la piste, sur la piste de course, d'autant de cases que la valeur de la carte renseignée.
D'accord.
Donc voilà. C'est relativement simple. La mécanique de base, c'est à chaque tour, on joue une carte pour chacun de nos coureurs et on avance.
Ok, mais ça peut pas être tout, parce que sinon c'est un peu naze.
Ça peut pas être tout. On est d'accord. Et donc évidemment, il y a plusieurs twists là-dessus. En fait, chaque paquet va représenter la forme, la capacité, l'endurance de notre coureur, son énergie. Et quand on va jouer une carte, on va l'écarter complètement du jeu.
D'accord.
Donc, déjà il faut réussir à aller au bout de la course avec ses cartes.
On a en fait
tout, toujours évident.
On a toutes les cartes au début, enfin on a la possibilité de jouer n'importe quelle carte au début.
Alors en fait, on va donc la mécanique en propre, en clair, c'est donc on a nos deux paquets de cartes.
Ouais.
On va choisir un des coureurs en premier. On va prendre les quatre premières cartes du paquet qui lui correspond. Donc, bah, imaginons, d'accord, je choisis mon rouleur. Je prends les quatre premières cartes du paquet de mon rouleur. Je choisis parmi ces quatre cartes laquelle je vais jouer. Je mets les autres dans une défausse, on va dire.
Okay.
Dans le jeu, en fait, il faut les remettre face visible en dessous du paquet.
D'accord.
En fait, c'est simplement pour éviter d'avoir trois paquets différents, voire quatre, hein, avec, oui, la carte qui est en train d'être jouée. Hein. Voilà, c'est une question un peu de simplification. Une fois que j'ai fait ça, je fais pareil avec mon autre coureur. Je prends les quatre cartes du paquet, du dessus du paquet, j'en choisis une que je vais jouer, okay, je remets les autres en dessous, face visible. Les autres joueurs font la même chose en même temps. Une fois que tout le monde a terminé, on révèle les cartes de tout le monde et on avance.
Okay.
Et on avance en commençant par le premier sur la piste. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Pareil, ça paraît très simple.
Oui.
Alors déjà, donc, première chose, c'est que les cartes qui auront été jouées seront complètement écartées du paquet, donc elles ne vont pas revenir.
Mmh.
On va regarder ensuite les différents groupes qui se sont constitués.
Ah oui,
des,
d'accord,
sortes de pelotons.
Ouais.
Si un groupe est séparé d'un autre par une seule et unique case, il va recoller au groupe. Et on va faire ça donc en partant de l'arrière de la course cette fois-ci et en remontant. Ce qui fait qu'un coureur qui est très loin va finalement pouvoir regagner plusieurs cases comme ça s'il est remonté plusieurs fois par plusieurs groupes.
D'accord. Et donc l'intérêt d'être devant en fait est limité parce qu'il faut, si t'es devant, il faut que tu distances suffisamment tes adversaires.
Alors il faut que tu les distances suffisamment pour éviter qu'ils remontent, mais on va voir un peu plus loin que c'est quand même intéressant à certains moments de la course en tout cas d'être devant.
D'accord.
Alors ça peut être intéressant effectivement soit pour réussir à créer une cassure et à laisser les autres derrière. Soit, effectivement, plus on avance vers la fin de la course, et plus il est intéressant d'être bien placé pour réussir à passer en première ligne d'arrivée, puisque c'est le but du jeu, c'est de franchir en premier la ligne d'arrivée. Avec des petites subtilités que j'expliquerai plus tard, parce qu'elles sont quand même, importantes en termes de mécanique.
Okay.
Donc, là, je vous expliquais l'effet d'aspiration, qui est un des effets principaux de ce sport, en fait, enfin, qui est une des caractéristiques principales de ce sport et qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les jeux de course. Ce que j'ai pas encore expliqué, c'est donc on va remonter comme ça, et les coureurs qui sont encore devant un groupe, donc soit tout simplement à l'avant de l'ensemble des coureurs, soit à l'avant d'un groupe seul qui aurait été décroché, donc qui est séparé par au moins deux cases d'un autre groupe. Tous les coureurs qui sont à l'avant de ces groupes-là vont prendre une carte supplémentaire dans une pioche, qui est une carte de fatigue, donc qui va avoir une valeur 2. Donc rappelez-vous que le rouleur, lui, il a des valeurs minimum de 3. Donc une carte 2, c'est pas terrible. Et le sprinter aussi a des cartes minimum de valeur 2. Donc c'est équivalent à ces cartes mini, mais évidemment, c'est pas terrible non plus, quoi. Donc en fait ça simule simplement le fait que le coureur qui est devant, eh bien, il roule pour les autres et donc il se fatigue.
Ok, il les tire.
Voilà, donc cette carte là on va la mettre en dessous de son paquet avec les autres cartes qui n'ont pas été jouées ce tour-ci. Et au bout d'un moment, les tours vont s'enchaîner. Puis on va finir par arriver à un moment à piocher des cartes qui sont face visible sur notre paquet. Donc c'est les anciennes cartes qui n'ont pas été jouées.
D'accord. On les repioche
à ce moment là, on retourne notre paquet, on mélange et on pioche les cartes qui nous manquent.
D'accord, tu remélanges quand même.
Donc là, voilà, on va remélanger la partie visible qui n'a pas été jouée.
Okay.
Je rappelle que les cartes,
oui, les cartes jouées
qui ont
sont
été jouées sont bien écartées. Non, parce, ouais, qu'il y a des gens qui sont passés à côté de cette règle-là, évidemment, le jeu n'est pas intéressant si on ne fait pas ça. Et donc forcément, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un phénomène de... si on roule trop devant, notre main elle va finir par être pourrie,
ouais,
parce que notre coureur elle est fatiguée. Et donc on va en fait, alors on va pas forcément avoir que des deux dans notre main, mais on va avoir moins de choix.
Mmh.
Or il arrive des moments dans la course où on a besoin de jouer une petite carte ou une grosse carte et on a besoin d'avoir le choix et pas de se retrouver avec un œuf dans sa main et d'avoir que ça dans la main et de devoir claquer, de devoir partir devant tout seul. Donc c'est il faut réussir à doser cet effet là. Alors du coup ça c'est un premier revers que peut avoir le jeu, enfin un premier inconvénient que peut avoir le jeu, c'est que, comme dans une vraie course cycliste, Bah, le début, il peut être un petit peu plan-plan. C'est-à-dire qu'au début, les gens se regardent un peu ouais. Et puis, et ben, ils essaient de personne pas se mettre part, trop devant, mais en même temps pas trop derrière non plus, parce qu'en fait, quand on est trop derrière, si on joue à 4 joueurs, il y a quand même 8 coureurs sur la piste. Et remonter, quand on doit s'arrêter, voilà, quand on doit s'arrêter sur une case qui est occupée par, en fait, la route, il y a deux cases, deux fronts. Donc on peut être sur la droite ou sur la gauche de la route. Mais quand les deux cases sont occupées, on peut plus aller sur la case.
D'accord.
Donc on reste derrière. Et donc on peut perdre des coups.
Ah d'accord. Donc c'est à dire que s'il y en a deux de front et que tu fais un 9, tu peux pas passer s'il y en a deux de front.
Alors tu peux passer. Mais tu perds des coups. Tu peux pas t'arrêter sur la case.
D'accord.
Donc ça arrive que tu
perdes un coup,
tu dois
par exemple.
T'arrêter sur la case, et si t'as vraiment des gros groupes et que t'es derrière, t'as des fois
oui, tu perds
deux emplacements des fois occupés, et d'un coup tu te retrouves à perdre deux cases, quoi.
D'accord.
Et ça peut compter à la fin.
Oui, j'imagine.
Alors après, c'est un peu le jeu de base que je vous ai expliqué, et il y a des variantes. En fait, la piste, elle est modulable. Et les tuiles sont recto-verso. Et donc, quand on joue les tuiles, quand on joue toutes les tuiles recto, grosso modo, voilà, c'est le jeu de base. En fait, on est sur une piste plate. Quand on retourne certaines tuiles, on a des cases qui vont apparaître rouges ou bleues. Les cases rouges, en fait, vont représenter la montagne, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une pente ascendante. Mmh. Les cases bleues représentent une pente descendante.
Okay.
Donc la pente descendante est l'ami du rouleur, mais la pente ascendante est moins cool, vous l'imaginez bien. Et là, en fait, va se rajouter quelques règles. Alors, dans les phases ascendantes, l'aspiration n'est plus possible. Alors, vraiment dans le pire des cas. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un gars qui est dans une case rouge et que toi, t'es derrière, à une case derrière, et que les deux cases, elles sont neutres, si tu veux.
Tu remontes pas.
T'as pas d'aspiration.
Ouais.
À partir du moment où il y a un coureur qui touche une case rouge, c'est mort, il n'y a pas d'aspiration.
D'accord.
Également, les cartes sont limitées à une valeur de 5. Alors, tu peux jouer une carte au-dessus, mais tu n'avanceras que de 5 au maximum dans la côte.
Mais ça vaudra que 5. D'accord.
Du coup, c'est pas vraiment le bon moment pour aller claquer ces 9, quoi. Et surtout, alors c'est pareil, encore une fois, c'est le pire cas possible. C'est-à-dire que si tu dois rentrer sur une case rouge, qui est un 6, en gros, et que c'est ton 6e coup, tu rentres pas. Voilà.
Oui. Oui, s'ils sont déjà 2 sur la case.
Comment expliquer ? Tu joues un 6, d'accord ?
Ouais.
Et tu avances 1, 2, 3, 4, 5, hop, et là t'es devant une case rouge, d'accord ?
Ouais.
Et tu dois jouer ton 6, entre guillemets. Toi, tu t'es avancé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non. Tu dois rentrer dans une case rouge qui te limite à 5. Tu peux rentrer avec un 6.
D'accord. Ok.
Voilà, tu vois.
Oui, oui.
Ouais, c'est pas évident d'expliquer comme ça.
Non, mais je comprends mieux.
Ok.
Oui, c'est-à-dire que c'est absolu. C'est pas une fois que t'es dans le rouge que tu ne peux plus utiliser de 5. C'est même si tu dois rentrer
c'est
avec.
Quand tu dois rentrer,
ouais,
quand
ça
tu
peut pas être
pars
un 5.
Quand tu pars dedans, quand tu dois passer ou quand tu dois sortir.
D'accord, ok. Ouais, donc c'est assez restrictif.
Ouais. Donc ça simule vraiment bien la montagne. Il hein. y a pas à chier. C'est à dire que il y a pas d'aspiration. C'est à dire que si t'es une case derrière, avec une seule case entre les deux, bah du coup tu prends de la fatigue. Enfin bref, c'est la totale, quoi. Et les descentes, c'est l'effet inverse. C'est à dire que toutes les cartes qui sont jouées vont avoir une valeur minimale de 5. C'est à dire que si je joue un 2,
ça vaudra 5.
J'avancerai quand même de 5.
D'accord.
Voilà. Un 3 pareil, si je joue un 7, voilà, je vais bien avancer de 7. Voilà.
Ouais, du coup la gestion des cartes est quand même vachement intéressante.
Ouais, c'est vraiment un jeu dans lequel il faut réussir à doser son effort. C'est vraiment ça, en fait. Il faut vraiment se représenter son paquet de cartes comme l'énergie de nos coureurs et l'effort qu'on fournit. Et le jeu a une dimension tactique parce qu'il faut réussir à se placer correctement. En fait, avec ce que j'ai expliqué, tu auras peut-être entrevu que quand tu arrives sur les montagnes, s'il y a un groupe un peu serré, étant donné que les valeurs, elles vont avoir tendance à, si tu veux, les gens ils vont avoir tendance à plus jouer leur 6, leur 7 et leur 9.
Oui.
Du coup, on va tous jouer sur des valeurs qui vont avoir une variabilité faible. Donc ça va resserrer un peu le groupe. C'est un effet d'étranglement. Et du coup, t'as des coureurs qui voudraient rentrer dans la montagne parce que Imagine, la montagne, elle fait 4 cases. T'aimerais bien la franchir en une fois, ne pas te taper la limite des 5
3 fois,
sur ta carte, deux fois.
Voire 3 si t'arrives dedans.
Voire 3, ouais. Voilà. Ouais. Et bah, tu peux te retrouver à te la taper effectivement 2 ou 3 fois parce que t'étais derrière au début, tu vois, et que les autres, en rentrant, te bloquent parce qu'ils occupent la case. Bref, voilà. Enfin, il y a une vraie dimension. Qui rappelle vraiment. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a effectivement regardé le Tour de France quand j'étais plus jeune. J'aimais bien. Voilà. Encore aujourd'hui, si voilà, un week-end, je suis chez moi et qu'il y a une étape de montagne, je vais la regarder.
Moi, j'aime bien le vélo aussi, donc ça me parle assez. Est-ce que tu penses que du coup, quelqu'un qui aime, enfin, qui connaît pas ou qui a pas d'attirance particulière pour le vélo, trouvera quand même un intérêt dans le jeu?
Alors. Il y a différents, voilà, j'ai vu plusieurs profils de joueurs. J'ai joué quand même avec pas mal de gens qui ne sont pas spécialement amateurs de
vélo,
de course cycliste, pas du tout, qui ont senti effectivement l'intérêt du jeu, qui ont senti la simulation que ça représentait, et
ouais, l'intérêt tactique,
la mécanique qui était vraiment bien faite. Voilà, il y a vraiment une mécanique qui est bien faite derrière. Après, voilà, c'est pas un jeu. Voilà, tu disais au début, voilà, on va commencer par King Domino qui est plus léger, et puis le gros jeu,
c'est pas un gros jeu.
Ouais. Mais c'est pas du tout un gros jeu. Mmh. Voilà, je rappelle, c'est à partir de 8 ans. C'est pas du tout un gros jeu. J'ai pas joué à Leader One ou à d'autres jeux de cyclisme qui apparemment vont beaucoup plus loin dans la simulation.
Ouais.
Donc on n'est pas du tout là. Ce qui fait que le jeu peut plaire quand même à des gens qui sont pas amateurs de cyclisme. Maintenant, si c'est un sport qui vous parle vraiment pas, que vous n'aimez pas, là, je pense que... Enfin, moi, j'ai entendu des gens qui, direct, m'ont dit « Ah non, je joue sur le cyclisme, moi, je joue pas, c'est trop nul. »
Comment tu scores, en fait, à la fin? Ça dépend du classement de tes deux cyclistes, du coup?
Non, c'est le premier qui passe qui gagne.
D'accord, c'est-à-dire que en fait, tu peux avoir un cycliste complètement à la ramasse si un de tes deux cyclistes gagne.
Tout à fait, ouais.
D'accord. C'est pas moyenné, genre c'était premier et dernier et que l'autre avec ses deux cyclistes ait fait 2 et 3, c'est pas lui qui gagne.
Non.
C'est vraiment le premier.
Non. Après, alors, l'auteur propose une variante qu'ils ont appelée Grand Tour, je crois, que vous pouvez retrouver sur Board Game Geek, où là, on va faire plusieurs étapes.
Ouais, tu peux avoir des points de classement.
Le classement en points. Okay. Voilà. On peut imaginer, il y a déjà plusieurs personnes qui ont pondu quelques variantes sur BGG, des bonnes, des moins bonnes. Il y a une variante pour jouer en solo, apparemment, que j'ai pas regardé. Voilà, il y a matière à faire dans ce jeu. Ce que je voulais dire juste sur le finish, effectivement, il y a des petites subtilités qui sont pas forcément très claires dans les règles. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé des règles. Alors, les règles, bon, si vous avez un peu suivi les réseaux sociaux, tout ça, les règles, il y a des règles en français dans la boîte. Le matériel est neutre. Les règles en français sont imbitables. c'est vraiment, c'est Google Translate ou approchant.
C'est dommage.
En revanche, ils ont fait une deuxième version des règles qui est disponible sur leur site, donc sur l'Otap Elite. Okay. Et celle-ci a l'air vraiment mieux. Enfin, moi, je l'ai lu en diagonale. Voilà. Et donc, oui, sur le finish, il y a des petites subtilités aussi, en fait. Parce que, typiquement, on peut avoir ces effets de sprint. Derrière la ligne d'arrivée, il y a un certain nombre de cases. Il peut y en avoir 5 ou 4, ça dépend de comment on place la tuile. Il peut y avoir 4 ou 5 cases derrière la ligne d'arrivée. Et c'est le premier qui franchit la ligne, mais au cas où il y aurait plusieurs coureurs dans le même tour qui franchissent la ligne, on regarde celui qui est arrivé le plus loin derrière la ligne. Sauf qu'on se limite bel et bien au nombre de cases qui sont présentes sur la piste. C'est-à-dire que si je suis juste devant la ligne, qui a 4 cases derrière la ligne, que je joue en 5 avec mon coureur, ça va l'amener à la dernière case, la case la plus loin, d'accord.
Ouais.
Et si juste derrière un autre joueur joue son sprinter, joue un 9, ben le sprinter il va s'arrêter sur la case à côté de mon coureur, et c'est bien mon coureur qui va gagner.
D'accord.
Alors que si je pars d'un peu plus loin, d'accord, si je suis par exemple 3 cases devant la ligne, mon coureur il va faire 5, donc 3 cases devant la ligne, puis 2 derrière la ligne, d'accord. Tandis que le sprinter, lui, qui est une case derrière moi, il va atteindre la dernière case.
Avec son 9.
Voilà, avec son 9. Et donc là, c'est lui qui va gagner.
D'accord.
Il y a des petites subtilités comme ça, et c'est vraiment très important. Et comme j'expliquais, sur la fin, c'est vraiment du coup très important d'être bien placé, parce qu'au bout d'un moment, il y a des parties, en fait, où on se dit, Bon bah, où en fait on voit qui gagne en fait. Potentiellement on voit qui gagne 2-3 coups avant. Si on sait par exemple qu'un joueur a gardé 2-9 avec son sprinter et qu'il est 15 cases avant la ligne.
Devant, ouais.
Bah, c'est 15 cases avant la ligne, je veux dire, s'il est capable de jouer ses 2-9,
il a gagné.
Voilà, il a gagné s'il est devant tout le monde. c'est logique.
Il peut aussi piocher ses 2-9 dans son premier coup en fait, et du coup en jouer voilà, un et l'autre
exactement.
Va se retrouver en dessous quoi.
Voilà. Alors sauf que normalement on a tout juste le nombre de cartes pour finir, à peu près. Hein.
D'accord.
Mais effectivement, s'il a beaucoup
arriver,
de
coups
devant, il va avoir beaucoup de fatigue, et du coup il va peut-être se retrouver un moment à piocher ses 2-9 d'un coup, et finalement avoir
que des
fatigues
cartes.
Dans la dernière main. Et j'ai vu des joueurs connaître ça, quoi. Et c'est effectivement,
la déception.
Je croyais moi avoir course perdue, et finalement, pouf, je me retrouve avec à doubler un sprinter qui est complètement aux abois là, devant la ligne. Et,
c'est le dopage, tu sais, ça retombe toujours un moment, et t'as
ouais,
plus de jeu du
ça,
tout.
Ouais. Ouais. C'est, la dose était pas assez importante. Voilà. Non mais voilà, il y a cet effet un peu crescendo. Effectivement au début le jeu peut paraître un peu plan-plan, et puis on arrive sur la fin et ça se resserre, il y a une tension qui monte, il faut réussir à passer devant les autres, avoir les bonnes cartes, à quel moment est-ce que je déclenche l'emballement entre guillemets, le sprint. Si j'ai un finish en montagne, évidemment, c'est encore différent, parce que là, il faut réussir à tenir, à pas se prendre de fatigue, parce qu'en fait, souvent, sur les finishes en montagne, il y a déjà eu plusieurs côtes avant, donc on a déjà potentiellement, tout le monde a déjà pris pas mal de fatigue. Le jeu est vraiment bien fait pour qu'on ait ces effets-là qui soient ressentis par les joueurs.
Ouais. Non, bah, en tout cas, enfin, moi, j'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Sans connaître forcément les règles, et c'est vrai que ça m'a titillé là, j'ai envie de l'essayer du coup.
Ah ben je conseille en tout cas vivement de l'essayer. Si vous êtes amateur de cyclisme, je pense que voilà, il faut acheter-le, c'est bon, ça va vous plaire. Je pense qu'il y a vraiment aucun souci là-dessus. Il faut juste pas s'attendre à ce que ce soit une pure simulation comme du Leader One ou je ne sais trop quel jeu d'expert.
Je sais pas si t'avais joué, mais ça m'a fait penser un peu à Rallyman, qui était aussi une simulation de rallye plutôt bien sentie mais assez simple finalement c'était pareil, enfin c'est un peu le même principe avec des cartes, sauf que bon, t'avais une histoire de tu passais des vitesses, donc tu mettais des cartes 1, 2, 3, etc. Enfin, pour
non,
passer
en fait,
les vitesses.
Tu lances des dés, il y a un côté prise de risque dans Rallyman.
Oui, il y a un côté prise de risque.
Enfin, qu'a priori t'as pas, ouais, non, c'est quand même pas la mécanique principale de Flamme Rouge.
Non mais alors je dis pas que c'est le même jeu, hein. Je dis juste que ça, dans l'esprit simulation assez accessible et à la fois qui retranscrit bien les sensations du thème et en même temps qui est pas trop complexe en termes de mécanique.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. C'est dans la même veine effectivement de
simulation,
de niveau de simulation peut-être.
Ouais. Ça
marche. Mais quand même, Rallyman est quand même plus complexe.
Oui, il est un peu plus complexe. Oui, je suis d'accord. Oui, parce qu'il y a des histoires de virages que tu peux pas prendre à certaines vitesses. Il y a plus de choses. Oui, je suis d'accord. Bon, parce que aussi le rallye, c'est peut-être il y a peut-être plus de paramètres aussi que dans du cyclisme, je sais pas.
Je ne saurais pas dire.
J'ai bien envie de l'essayer du coup.
Je pense que c'est clairement en fait c'est potentiellement dans les mécaniques etc. C'est un jeu pour tout le monde, mais le thème va faire que va mettre des gens sur le bord de la route.
Ouais.
Ça me paraît assez évident.
Oui, je pense parce que c'est un thème très, c'est un parti pris très fort quoi.
Et d'ailleurs l'auteur, je suis abonné à son compte sur Twitter, et je l'ai vu contacter le compte du Spiel des Jahres et leur demander s'il pouvait leur envoyer un exemplaire pour le Spiel des Jahres. Alors j'ai retweeté son tweet en disant bon, j'aime beaucoup Flamme Rouge, mais je pense que
ça va être compliqué,
le jeu n'est pas
pour
le Spiel des Jahres. Voilà.
Ouais.
Donc lui, il a l'air d'y croire. Bon, il y croit. Il m'a répondu gentiment. Qui ne tente rien à rien.
Oui, enfin, bon, il a raison.
Un truc dans ce style-là. Voilà. Et il a raison tout à fait.
Après, pour.
Mais voilà. C'est pour vous donner mon impression. C'est vraiment. Pour moi, ce sera un jeu marquant de cette année. Mais voilà, à mon avis,
un peu trop clivant,
pour beaucoup de prix, voilà, il va être laissé sur le bord de la route pour beaucoup de prix à cause de son thème, je pense. Maintenant, voilà, si on regarde ça vraiment pure mécanique et pure adaptation thème mécanique, moi je peux vous garantir que c'est vraiment bien fait.
Bah, c'est vrai que c'est un jeu qui sans le thème n'aurait peut-être pas du tout d'intérêt quoi, ou en tout cas un intérêt bien moins.
Alors comme disait Merlin qui disait on aurait dû faire une course de, alors il avait dit de cochon, mais en fait
escargot,
de mouton. voilà, ça pourrait du coup rendre le jeu plus fun effectivement, donc ça peut être une idée. Si ça se trouve un jour il sera réédité avec un thème différent. Voilà.
Oui, enfin, après les moutons, il y a plein de trucs que t'arriverais pas à justifier autant qu'avec.
Voilà,
tout ce système
vraiment,
de montagne,
paquet,
et tout
ce
ça.
Paquet de cartes qui représente l'énergie,
voilà,
du joueur,
ça, ouais.
Du coureur, tu vois.
Ça
marche pas avec des moutons, quoi. Soit ça, c'est moins senti. Ouais. Alors, sachez qu'apparemment, l'auteur est en train de travailler sur une extension. J'ai vu quelques photos, il faisait des playtests pour jouer à 6. Voilà.
Parce que c'est combien ? C'est que jusqu'à 4 pour le moment ?
Oui, c'est jusqu'à 4, ouais.
D'accord, ouais, ça c'est dommage. C'est vrai que c'est le genre de jeu, tu te dis, ça pourrait être joué un peu plus massivement, ouais.
Donc voilà, apparemment il est en train de travailler là-dessus. Alors j'ai pas parlé du jeu à 2. Le jeu à 2 n'est pas la meilleure configuration. J'en ai fait qu'une partie, c'est vrai. J'en ai fait qu'une partie à 2. J'ai bien joué quand même avec la montagne, donc du coup ça rend quand même le jeu un peu plus intéressant. Mais voilà, il y a moins de coureurs, du coup il y a moins. Il faut qu'il y ait un petit effet aléatoire, un petit effet chaos quand même dans ce jeu, sur le fait qu'on sait pas ce que vont jouer les autres. Ce côté où on se fait bloquer dans la montagne, ou toutes ces petites choses là, c'est rigolo en fait. C'est ce qui fait, ça crée des rebondissements dans la course, et on a besoin de ça aussi.
Ouais, c'est ce qui crée la tension, et les jeux de course, ça marche beaucoup sur cette tension. Et...
Donc je recommande pas le jeu à deux. Visiblement, l'auteur recommande pas d'essayer de jouer avec 4 coureurs à deux.
Ouais.
En fait, il explique
ça
que
ça complique un peu quand même.
Ouais, il explique que ça devient difficile de créer des cassures, ce qu'on appelle des cassures dans le cyclisme, c'est-à-dire d'essayer de partir devant, ou des échappées, on pourrait appeler ça des échappées, ça parlera plus. Parce que du coup, le joueur adverse, il aura toujours un coureur à envoyer devant, quoi, puisqu'il en a 4. Et étant donné que c'est le premier qui gagne, il suffit d'amener un coureur devant, voilà. Parce que c'est ça aussi qui est rigolo quand on joue à plusieurs. Il y a un joueur qui va partir devant. Ok. Qui est-ce qui va le rattraper ?
Ouais.
Parce que il faut qu'il y en ait un qui sorte. C'est comme dans le vrai cyclisme. En fait, il faut qu'il y en ait un qui sorte, qui produise l'effort pour le rattraper, recoller, se mettre derrière ou à une case et puis ramener les autres en fait. Et du coup, quand c'est comme ça, les 3 autres joueurs ils se regardent, ils font qui est-ce qui va ? Et personne ne dit rien et joue sa carte quoi.
Voilà, et merde, il n'y est pas allé, personne n'y est allé, du coup l'échappée. c'est comme dans les vrais courses cyclistes.
Moi ouais. j'ai fait 6 parties jusque-là, j'ai pas encore osé partir devant. Non, mais on se dit quand même qu'il faut faire la course complète et.
Ouais, il faut tenir l'effort, ouais.
Quand on voit déjà qu'on fait quelques parties à 4 et qu'on se retrouve limite, on se demande. Et on commence à regarder les règles, on se dit, qu'est-ce que l'auteur a prévu quand je n'ai plus de cartes à jouer du tout. Tu vois,
ouais, t'as pas l'esprit baroudeur, quoi.
Alors tu te dis, partir en baroudeur comme ça dès le début, c'est tout à fait faisable, quoi. Donc, ça m'est arrivé. Enfin, non, le pire qui m'est arrivé, c'est vraiment. J'allais me retrouver à ne plus avoir de cartes. Et il se retrouve que j'étais devant tout le monde et. Du coup, je pioche une carte de fatigue, donc j'ai bien une carte à jouer au prochain tour. Et ensuite, la course, c'est fini. Mais
il n'y a personne qui t'a jamais joué, et puis quelqu'un qui claque ses neufs dès le départ pour vraiment creuser la distance.
Non, j'ai pas encore vu, mais il va falloir que je tente.
Le mec un peu fou, tu sais, qui sprint dès le départ, il tape un gros sprint, et après il est crevé.
Je vous ferai un retour lors de la prochaine chronique pour vous dire ce qui se passe quand je fais ça.
Ça marche. Bon, apparemment c'est un jeu qui est victime de son succès aussi, hein, puisqu'il est aussi en rupture chez Philibert pour le moment.
Ah, il est en rupture chez Philibert, alors il va être distribué en France par Gigamic. Il va être localisé, Ouais. Il va être un niveau rôle, faire l'arène, etc. Gros, ouais. Mais c'est prévu pour avril, je crois, ils ont dit. Avril.
Ok.
Mais j'ai demandé à Philibert, qui m'a dit qu'ils allaient avoir un réapprovisionnement début décembre. Donc normalement, si tout va bien, vous devriez pouvoir le retrouver en boutique lorsque la chronique sera en ligne.
Bah,
voilà. S'il n'est pas à nouveau revictime de son succès.
Bah oui, si vous écoutez la chronique, dépêchez-vous, si un de ces deux jeux vous intéresse.
Donc il est à 34,95€ chez Philibert. Édité par l'Otapelite, je rappelle l'auteur Asger Harding Granerud, donc un Danois, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de environ 30 minutes, 30 minutes à 1 heure, ça n'a jamais duré jusqu'à 1 heure, hein, 30-40 minutes, oui. Illustré par aussi Yekala et Jere Kazanen. Alors j'ai pas parlé des illustrations, mais elles sont en fait dans un style un peu années 20, années 30, donc ça nous ramène un peu au cyclisme d'antan, ces images d'archives qu'on peut voir en noir et blanc, on a un peu ce côté-là, et puis dessiné dans un style un peu caricatural sur la couverture, qu'on retrouve pas tout à fait dans les illustrations à l'intérieur du jeu, donc qui sont moins caricaturales et plus... peinture ouais, comme si on avait peint ses coureurs dans les années 20, dans les années 30. Je pense que les deux illustrateurs en fait se sont partagés effectivement entre le ce qu'on retrouve dans le jeu, dans le matériel, et la couverture. Ça doit être effectivement, c'est là qu'on a deux illustrateurs différents. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, le matériel est vraiment impeccable. On a des petites figurines en plastique pour représenter les cyclistes. Alors c'est pas évident de distinguer le rouleur du sprinter. Il y en a un qui est un peu debout sur le vélo, mais voilà, c'est pas...
La figurine est un peu différente, ouais.
Ouais, elle est un tout petit peu différente, mais c'est pas super visible. Et du coup...
C'est quoi, c'est des petites figurines en plastique?
Oui, c'est des petites figurines en plastique, oui. Et du coup, comme c'est pas évident de les distinguer, je me suis lancé, j'ai commandé au Papa Noël un peu de peinture, un pinceau, et puis je vais m'essayer à ça.
Bah ouais, écoute.
Et puis j'ai vu des mecs sur BGG qui ont fait des choses qui paraissent pas non plus super compliquées, voilà, qui ont mis des petites touches de peinture et qui rendent le truc vraiment plus sympa.
Bah moi sur la peinture, je vous conseille de vous lancer, hein, parce que je suis du genre à avoir deux mains gauches, j'ai décidé de me mettre à peindre certaines figurines. Alors je suis très lent, je mets beaucoup de temps, mais j'arrive à des résultats qui sont plutôt corrects. Sans beaucoup de matos, sans beaucoup d'expérience, et même quelque chose de moyen, on va dire, ça rendra sur le plateau tout de suite un petit peu mieux qu'une figurine plastique monocouleur. Faut pas hésiter à mettre un petit coup de peinture. Ça.
Moi, je sais que c'est toujours un truc qui m'a un peu rebuté sur les jeux de figurines. C'est que, en fait, je trouve pas. Alors, j'ai adoré parce qu'en fait, Cédric des Ludonautes a exprimé ce que j'avais toujours envie d'exprimer. C'est que je trouve ça moche, moi, des figurines
qui sont toutes grises.
Voilà. Et en fait, du coup, je trouve que c'est moins joli que finalement si on avait un pion en carton. Voilà.
Ouais.
Et comme je fais pas de peinture, voilà.
Ouais, non, mais alors après, c'est vrai que des jeux avec beaucoup de figurines, si vous êtes comme moi, un peintre très lent, c'est-à-dire que je mets pratiquement sur des figurines un peu complexes, pratiquement une demi-journée par figurine, effectivement, quand il y en a 150 dans la boîte, c'est un peu long.
Ouais. Voilà. Bon, voilà. On n'a pas trop mal digressé, je trouve, cette fois.
Ouais, ouais, un petit peu à la fin, là, mais bon, on verra si. Dites-nous, hein, si voilà. On est parti un peu trop loin,
si vous avez trouvé trop relou.
Si
ça vous a amusé un peu.
Amusé, intéressé. Moi, ça y est, j'ai plus de voix, donc c'est temps de finir.
On a fait le tour aussi de Flamme Rouge, du coup. Alors oui, si jamais vraiment vous voulez le jeu et qu'il n'est plus du tout dispo, vous pouvez aller sur le site de l'éditeur, donc de l'Otapelite, et le commander. Bon, ça va vous coûter un peu cher, parce que du coup il y a des frais de port
depuis
qui sont quand même un peu conséquents, puisque c'est un éditeur finlandais.
Ah, finlandais, oui.
Voilà. Donc je crois que ça revient du coup en tout à une cinquantaine d'euros. Voilà, je m'étais renseigné quand même. Pour info,
ouais, ça fait une quinzaine d'euros de plus quand même.
Mais écoute, je crois qu'on peut dire que c'est fini pour les chroniques jeux du mois de ce mois de décembre. Alors, on vous dit à la prochaine fois, et d'ici là,
jouez bien. C'est parti.
C'est bon.
Okay. C'est bon.
Et du coup, c'est quand tu veux.
Ok, c'est bon de ton côté, tout.
Ah non,
tout,
attends. Okay.